Stop, c'est parti.
Regardez-moi la télé.
Nous allons parler de l'information.
MJV. Les journalistes ne m'intéressent pas.
You are fake news.
Hello.
Et ben voilà, il est 9h41 sur France Inter. Soyez les bienvenus dans l'Instant M.
Vous êtes en direct, allez-y.
Les HLM, 21 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, des demandes par million sur tout le territoire et pourtant des pratiques abusives, voire carrément illégales. Dans son rapport, l'Ancol, le gendarme du logement social, a épinglé près de la moitié des bailleurs français. Cache Investigation emboîte le pas et fait la lumière sur trois sociétés privées, l'immobilière du Moulin Vert, la Sojima à Marseille et le géant Villogia. Facturation de charges locatives proche du racket, pot de vin de la main à la main, trafic de faux dossiers, spéculation immobilière et manque d'entretien d'un parc immobilier délabré. Blême le HLM. Une enquête qui par ailleurs met très bien en lumière l'impact et la réputation du magazine de France 2 partout où il passe.
L'Instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Bonjour Sophie Roland.
Bonjour.
Elle est de vous, cette enquête. Société HLM, loyer modéré pour business démesuré. Et on va voir quels sont les registres de la démesure. Ils sont nombreux, c'est sur France 2, c'est Cache Investigation. Et c'est ce soir en première partie de soirée. On est mardi, c'est le jour de Cache Investigation. C'est aussi le jour de Xavier Delaporte et de sa fenêtre
ouais,
numérique.
C'est pas le même impact, mais bon.
Bah, on sait jamais, petit
c'est vrai,
à petit,
c'est vrai.
Dans 9 ans, les gens partiront en courant quand vous arriverez quelque part, Xavier. Okay. Alors, la fenêtre aujourd'hui, elle s'ouvre?
Bonjour Sonia, bonjour à tous. Alors oui, elle s'ouvre sur l'incendie de Notre-Dame de Paris, qui a été l'occasion de constater un phénomène apparemment paradoxal, la passion d'Internet pour les archives. On a vu ressurgir, dont c'est tout, des photos très anciennes, des textes, des gravures et enluminures qui ont circulé à la vitesse de la lumière. Mmh. Étonnant? Eh bien, pas tant que ça, parce que si on est un peu attentif, c'est constamment que les archives emplissent notre timeline avec la force esthétique du noir et blanc ou de l'image basse définition. C'est l'illustration d'un fait qu'on a tendance à oublier. Très vite, Internet a eu la passion du passé et l'a cultivé. Ouais. Un exemple parmi d'autres, dès 1996 naît UbuWeb, magnifique projet de l'écrivain et théoricien américain Kenneth Goldsmith, où l'on peut trouver des merveilles comme celle-ci.
Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent ?
C'est Guillaume Apollinaire lui-même, 10 ans, sous le pont Mirabeau en 1913. Alors bref, pour reprendre, en attordant un peu l'expression de l'historien Pierre Nora, Internet a tout de suite été lieu de mémoire. Mm-hmm. Ça peut sembler paradoxal, tant on a l'impression que tout y passe très vite sur Internet et s'oublie très vite. Mais c'est justement peut-être comme un antidote à cette vitesse qu'on aime y voir surgir le passé, le temps long. Il y a aussi une vertu à l'archive, relativiser nos angoisses dont les réseaux se font le réceptacle brillant. Le site de l'INA, par exemple, l'Institut National de l'Audiovisuel, joue souvent de cela en mettant régulièrement en ligne de vieilles images bien senties. Ainsi, ce micro-trottoir qui doit dater du début des années 70, où un vieux monsieur parle de son bachot.
De mon temps, il n'était pas le même que maintenant, parce qu'il y avait beaucoup moins de candidats. Et je crois que le niveau était supérieur.
Marignan, c'est quelle date ?
Marignan, 1415.
1415.
Oui,
et
oui.
C'est une victoire ou une défaite ?
C'est une victoire.
Remportée sur quel peuple ?
Ah ben sur la France. Oui. Je file mon métro, vous savez, je vais déjeuner.
Voilà, il se gourre sur tout, ce monsieur, et plus intéressant encore, à mesure qu'il vieillit, Internet, et qu'il emplit et qu'il s'emplit des témoignages de nos vies, Internet est en train de se constituer lui-même en archive. Vous le savez, Facebook, qui contient de plus en plus de profils de morts, est déjà le plus grand cimetière du monde. Et il en va de même, mathématiquement. Et il en va de même pour l'ensemble des réseaux sur lesquels nous laissons la trace de nos conversations, nos photos, nos vidéos. C'est nous-mêmes que nous archivons. Et de grandes institutions ont compris l'intérêt qu'il y avait à ce témoignage de notre présent. Il existe un dépôt légal du web à la Bibliothèque nationale de France. Internet lui-même, donc, est une archive. Mais archive de quoi ? Alain Finkielkraut a dit un jour qu'Internet était en train de devenir la poubelle de l'histoire. Alors, notre premier réflexe, évidemment, un peu méchant, serait de lui rétorquer qu'il a tort, qu'il y a déjà dans Internet des choses merveilleuses, la trace des luttes politiques dans les rues arabes, les productions artistiques qu'on ne trouve nulle part ailleurs, des blogs où des malades racontent leur vie. Pas sûr qu'on puisse appeler ça des déchets. Mais bon, il faut reconnaître, avec Alain Finkielkraut, qu'il y a aussi des choses moins intéressantes. On en est témoin tous les jours, des insultes, des veines polémiques, des étalages égotiques. Donc, Internet est aussi une poubelle de l'histoire. Sauf que tous les archéologues et paléo-anthropologues vous diront à quel point les poubelles sont intéressantes pour comprendre notre passé. Oui. Depuis les restes d'eau trouvés dans les cavernes, moins beaux, mais aussi instructifs que les fresques qui en ornent parfois les murs. Internet a pour lui d'être une poubelle de l'immatériel où s'inscrivent nos passions, nos fantasmes et nos haines. C'est pas toujours beau à voir, mais c'est inestimable pour l'avenir. Et je serais curieux de lire l'analyse que feront dans 500 ans les historiens qui se pencheront sur les débats qui animèrent les réseaux autour de la rénovation de Notre-Dame après l'incendie. Ils y liront sans doute l'esprit d'une époque encore mieux que dans les livres.
Merci Xavier. À réécouter La fenêtre de la porte sur franceinter.fr.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Avec Sophie Roland, journaliste à la rédaction de Cache Investigation, au magazine produit par Première Ligne TV, nous parlons de cette enquête sur les HLM. Alors on va commencer par Villogia, troisième bailleur privé de France, 70 000 logements sur tout le territoire, stratégie de développement hyper agressive, rachète et exploite des hôtels pour les raser ensuite et construire ses propres bâtiments, rachète de somptueux terrains à bâtir dans le sud de la France pour les revendre après, ça s'appelle de la spéculation immobilière. Le problème, c'est que pendant ce temps, Villogia n'entretient plus son parc immobilier existant. Cache Investigation ce soir sur France 2, visite des immeubles dans l'Essonne dans un état scandaleux, oui quasi scandaleux, et produit à l'écran un échange de mails internes entre la direction de Villogia en Ile-de-France qui est responsable des immeubles que vous avez visités et son siège dans le nord à Villeneuve-d'Ascq.
Je vous rappelle que nous sommes blacklistés dans le 93. Nous devons être irréprochables sur tous nos dossiers. Il est impératif de prendre ce dossier au sérieux.
J'ignore le coût de ces travaux, mais nous allons sans doute dépenser de l'argent inutilement.
Je préconise de reloger rapidement l'ensemble de nos locataires et de murer les logements, en attendant d'entreprendre la démolition.
Sophie Roland, ce qui frappe en regardant ces 1h44 d'enquête, c'est que ça semble déborder de sources internes, des documents, des courriers, des rapports, des salariés anonymes qui prennent le risque de venir témoigner, même si vous faites tout ce que vous pouvez pour protéger leur identité. Est-ce que cette enquête, comment dire, émane de sources internes plus que d'autres caches investigations, comme s'il y avait un énorme malaise au sein de ces sociétés, de ces bailleurs sociaux qui font le grand écart entre une mission dite sociale et puis des croissances économiques sur le dos des gens. Et voire sur le dos de la loi même, carrément.
Plus que d'autres caches, je ne pense pas. On a toujours des sources internes dans nos caches. Là, c'est vrai que j'en ai eu beaucoup.
Ouais.
Dans chaque histoire,
ouais.
Notamment la dernière chez Villogia. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est dans le logement social. Et donc, en fait, là, ces gens qui travaillent là, ils ont vocation, en fait, à loger les plus démunis, les plus vulnérables. Et quand ils voient, en fait, qu'il y a des stratégies qui se développent en interne au détriment du locataire, et ben, en fait, ça les révolte. Voilà. J'ai eu affaire vraiment à des sources internes totalement révoltées par ce qui se passe et qui ont envie, en fait,
là,
de dénoncer tout ça.
On vous livre carrément l'enregistrement d'une réunion de crise chez Villogia, du genre, vite, 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 faut rénover avant la diffusion de Cache Investigation sur France 2.
Oui, absolument. Vous découvrez effectivement ça ce soir. Notre passage, évidemment, tout le monde le sait. Enfin, quand on passe dans un logement, ça se sait ensuite en interne. Ça s'est su chez Villogia. Malheureusement, Villogia n'a pas souhaité donner suite à notre interview. Donc, ils ont préféré avoir une stratégie d'organisation et de préparer un petit peu leur communication et la diffusion pour ce soir. En revanche, ils ont quand même pris des mesures depuis qu'on est passé dans certains logements. Donc, tant mieux. Par exemple, à Étampes, puisqu'effectivement, il y a des gros problèmes, notamment de balcons qui menacent de s'effondrer carrément, et où des locataires ne pouvaient carrément plus aller sur leur balcon tellement ils avaient peur. Et là, en fait, il y a des travaux qui vont être mis en place.
Alors, c'est pas seulement la visite avec caméra et puis gros stage d'humidité, hein, c'est un rapport aussi de la Cour des comptes. L'entreprise a baissé de 49% ses dépenses d'entretien et de maintenance entre 2011 et 2015. 49% en 4 ans. Donc, elle se trouve en dessous du ratio de la profession. Et en fait, vous l'expliquez très bien, il y a eu la signature d'un protocole entre la préfecture de Seine-Saint-Denis et Villogia. Et la préfecture de Seine-Saint-Denis relance sans cesse et ça reste lettre morte. En fait, on sent l'impuissance des pouvoirs publics tout au long de cette enquête face à ces bailleurs.
C'est vrai. Alors, il y a des contrôles, quand même. Ouais. Effectivement, l'Encols, quand même, elle contrôle une centaine de bailleurs sociaux chaque année. Donc, c'est important sur les 700. Et elle essaye, en fait, alors, soit elle va mettre des amendes, soit elle essaye, en fait, négocier un petit peu avec eux pour que les choses changent en interne. Mais effectivement, ce qui s'est passé en Seine-Saint-Denis, là, c'était une vraie négociation entre la préfecture de Seine-Saint-Denis et Villogia pour que, ils rénovent des logements qui étaient, on en a filmé un, notamment, où il y a un appartement avec du plomb et une famille qui vit avec un enfant là depuis des années.
Qui est dans un état absolument effrayant. Dans le sud de la France, vous enquêtez sur la Sojima, acteur historique du logement social à Marseille, sous le coup d'une plainte de locataires pour facturation abusive de charges. 700 locataires ont déjà perçu 3,5 millions d'euros. Hein. Là, on ne parle pas de petites sommes. Et encore, il y en a beaucoup, 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 beaucoup plus à rembourser. Et des gens et de l'argent. Alors, Cache Investigation, enquête, comme vous l'avez très bien dit, Sophie Roland, ça se sait, à Marseille. Une des locataires qui se plaint a enfin rendez-vous grâce à vous à la Sojima. Vous l'équipez d'une caméra cachée. Le bailleur lui propose 54 000 euros de dédommagement.
Je n'ai même pas cherché à comprendre. J'ai viré. Voilà, ça fait 88 au lieu de 54. Ça fait 33 000 euros d'écart.
Vous êtes en train de me dire que vous faites des efforts. C'est pour vous, vous pensez que c'est des efforts. Je vous dis que pour nous, en tant que locataires, pour nous, c'est pas... Nous, ça a été de l'argent qui a été indûment pris. Vous faites un effort, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, il n'est pas conséquent. Après, si vous voulez qu'on reparte dans des débats, dans des procédures, il n'y a pas de problème.
On était sur 54 000 euros, 56 000. Ça fait 145 600. À mon avis, ça va faire des bons là-bas.
Voilà, bah le téléspectateur aussi fait des bons, on passe de 54 000 à 145 000 dans la même séquence de télévision de remboursement, sauf qu'il y a un deal à la fin de ce remboursement, Sophie Roland.
Mais en fait, oui, alors Shadia, elle s'inscrit dans une bataille qui a commencé en fait une association de locataires en 2012 avec son bailleur. Cette association, elle a déjà obtenu 3,5 millions d'euros pour 750 locataires. Et Shadia, en fait, elle essaye elle aussi d'avoir un remboursement de ses charges. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la Sojima n'a pas envie de rembourser tout le monde parce qu'il y a 6,000 locataires à la Sojima. Donc là, l'idée pour la Sojima, c'est que ça s'arrête là. C'est que Shadia soit le dernier dossier et qu'il n'y en ait plus du tout de remboursé. On a estimé que s'ils remboursaient l'ensemble des locataires, ça pourrait monter jusqu'à 24 millions d'euros. Ça serait vraiment une grosse somme pour eux.
Je dis, on mesure assez bien l'effet de cash dans le document qui est diffusé ce soir. Peut-être à double tranchant, parce que là, on voit quasi jusqu'à la caricature que dès qu'Élise Lucet arrive quelque part, les patrons s'enfuient en courant. C'est-à-dire que là, ce soir, on voit des patrons qui s'enfuient en courant et toute une équipe qui court derrière complètement essoufflée. Voilà, donc ça va peut-être finir par devenir un peu grotesque ces séquences. Et d'un autre côté, on voit bien que l'émission fait peur et que du coup ça débloque des situations.
Oui, en l'occurrence là, le patron certes, alors en l'occurrence c'est celui du Moulin Vert dans la première histoire, il s'est enfui, mais néanmoins on a pu derrière obtenir que sa directrice clientèle, Madame Marquis, réponde à nos questions. Et voilà, tant mieux, ça a été une négociation de longue haleine qui a pris 2 mois. Ensuite, ils ont demandé une préparation, on leur a donné 3 semaines pour préparer cette interview. Donc voilà.
Ça débloque aussi la situation vis-à-vis de gens que vous montrez comme victimes de situations totalement abusives, voire illégales.
Et c'est pour ça qu'on a dit, on leur a dit quand ils ont refusé de nous parler, mais c'est pas possible, on est dans le logement social, vous avez une mission de service public, d'intérêt général, vous ne pouvez pas pratiquer la politique de la chaise vide. Quelle image ça renverrait pour vous?
Alors le début de l'enquête se déroule en région parisienne, à Cergy et à Aubervilliers. Le bailleur social dont vous venez de parler, Sophie Roland, c'est l'immobilière du Moulin Vert, au sein de laquelle a été démantelé un vaste réseau de pots de vin. Une locataire témoigne courageusement des conditions d'attribution de son logement. Elle, la personne dont elle parle, est une chargée de clientèle qui donc a pour son job, c'est de sélectionner les demandeurs.
J'ai pas donné d'avis d'imposition et j'ai pas donné de fiche de paye.
Et comment ça se fait?
C'est un mystère. Elle s'en chargerait. Ce sont les mots qui sortent de sa bouche.
C'est ce qu'elle vous dit?
Ouais.
Je m'en charge.
Voilà, je m'en charge. Pour ça, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Là, elle nous dit, voilà, donc vous venez de la part d'un tel, vous savez un petit peu comment je procède. Voilà, pour accéder à ce logement-là, donc il faudra donner une enveloppe de 3000 euros.
Elle vous demande de verser 3000 euros en liquide?
En liquide, oui.
À elle?
À
directement?
Elle. À elle, directement, ouais.
1000, 2000, 3000, 4000 euros en liquide, des immeubles entiers vous racontent, Sophie Roland, comment on a donné des enveloppes aux gardiens, comment manifestement c'était su du bailleur chez qui ensuite on a signé le bail.
Absolument, ça s'est pas su tout de suite, hein, en haut de la direction, ça s'est fait à l'insu de la direction au départ. En fait, c'était un réseau chargé de clientèle, de gardiens, et puis de rabatteurs, d'intermédiaires extérieurs à la société, qui ont en fait été littéralement cherchés des demandeurs de logements sociaux, les plus vulnérables en fait, qui, comme on a aussi un témoignage d'Eliamine, qui lui vivait dans la rue, dans sa voiture, et en fait ils sont, ils ont profité de la vulnérabilité, des plus pauvres pour leur demander en fait une enveloppe en liquide pour décrocher un logement social.
Est-ce que c'est propre au secteur privé parce qu'il y a des bailleurs sociaux qui sont des organismes publics?
Je ne crois pas, parce qu'en fait, au début de cette enquête, j'ai été aussi sur la piste dans des offices HLM d'Île-de-France. Je n'ai pas pu aboutir là parce que mes sources n'ont pas souhaité aller au bout. Donc je ne pense pas que ce soit une
aller
situation...
Aller au bout, c'est-à-dire
aller au bout et faire la démonstration et recueillir des témoignages concrètement qu'ils avaient effectivement versé une enveloppe. En revanche, j'ai pu aller au bout avec dans l'affaire du Moulin Vert, parce qu'il y a eu beaucoup de témoignages, beaucoup de gens qui ont envie de raconter cette histoire, que cette histoire explose et soit connue, parce qu'il était révolté parce qu'il s'est passé là-bas. Mmh. Mais il s'est passé ça d'ailleurs en Île-de-France, c'est pas un hasard, c'est une région très très tendue parce qu'effectivement il y a une demande de logements sociaux incroyable, il y a 8 ans d'attente pour un logement social en Île-de-France contre 3 en moyenne en France. Donc voilà, c'est pas un hasard si ces dérives se passent là.
Le plus choquant, c'est comment se déroule la commission d'attribution de ces logements. La loi exige 3 dossiers de candidature qu'on met en compétition, qu'on met en concurrence et 6 membres siégeant à la commission. Vous parlez à une représentante des locataires qui siège dans l'une de ces commissions du Moulin Vert.
Je crois que la dernière réunion à laquelle moi j'ai participé, j'avais trouvé ça honteux. Parce qu'il y a des dossiers qui passent dessus, qui n'ont pas lieu de passer dessus.
Et il y avait toujours 3 candidats par logement ?
Non. Des fois 2, des fois 1. Quand on n'en présente qu'un seul, le dossier il est tout de suite accepté.
Et vous disiez quoi ?
Je gueulais. mais j'étais pas toute seule à gueuler. Après, c'est dégueulasse. Bon, par contre, là, je vais pas pouvoir communiquer longtemps avec vous parce que j'ai d'autres choses à penser que le Moulin Vert et que les locataires qui se sont niqués en ce moment, parce que je sais qu'ils se sont tous niqués, donc voilà.
Proprement effarant. Un dernier mot sur ce qui se passe à Aubervilliers, parce que vous le dites, il y a une situation très tendue, il y a énormément de demandes, mais il y a énormément aussi de construction. Et vous plongez votre nez justement dans ce business de la construction. L'immobilier du Moulin Vert privilégie, on va dire, des immeubles assez haut de gamme, ce qui signifie des loyers assez élevés et qui au final reste vide à Aubervilliers.
Absolument. En fait, dans le logement social, il y a plusieurs catégories de logements sociaux. Et en fait, ils ont privilégié ce qu'on appelle des logements PLS. Donc, ils sont en fait accessibles, on va dire, aux classes moyennes. Mm-hmm. Et en fait, ils n'ont construit quasiment que ça à Aubervilliers, l'immobilier du Moulin Vert. Ils ont construit 80% de leur parc avec ces PLS. Et donc là, les loyers, effectivement, sont plus élevés. Mais au-delà de ça, ils ont même pratiqué des loyers au plafond, voire même presque au-dessus du plafond.
Dans une ville, presque
6400 demandeurs de logements sociaux.
Oui, c'est voilà.
Et seul 1% peuvent accéder à un logement de
c'est
type PLS.
C'est ça, parce que presque la moitié de la population d'Aubervilliers vit sous le seuil de pauvreté, donc les gens ne peuvent pas se payer ces logements qui restent vides, qui en plus sont construits parfois dans des friches industrielles, enfin des endroits invraisemblables où en fait ça n'attire personne. Et là aussi, on voit l'impuissance de la mairie d'Aubervilliers. Le seul recours de la mairie d'Aubervilliers, c'est de dire ils sont blacklistés sur les permis de construire, c'est tout. On n'arrive pas à les contraindre.
Absolument, ils ne peuvent pas contraindre l'immobilier du Moulin Vert à baisser les loyers. Ce n'est pas possible.
Merci beaucoup Sophie Roland. Et donc à ce soir pour ce Cash Investigation. Donc je répète, société HLM, loyer modéré pour business démesuré. Et si vous voulez voir Élise Lucet chanter Renaud,
il est blême, et toute la chorale de Cash aussi.
Et toute la chorale de Cash Investigation, vous verrez, c'est la première séquence qui ouvre le document. À ce soir donc, bonjour Ali Rebéi.
Bonjour Sonia De Villers.
Alors,
on s'intéresse ce matin à un organe encore tabou peut-être dans la société française, le clitoris. On se demande s'il est tabou, pourquoi. On essaye de raconter l'histoire de cet organe.
Vous n'avez pas fait le pénis il y a pas longtemps ?
Oui, c'est pour être dans la parité, ma chère Sonia De Villers. Donc voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le clitoris au 01 45 24.
Puis vous avez peut-être plein d'histoires à nous raconter aussi.